France Musique. France Musique, les grands entretiens, François Bonnet.
François Bell, je suis né en 1932, loin d'ici, à Tamatave. En 1966, Pierre Schaeffer m'a confié la responsabilité du groupe de recherche musicale, le GRM, et aussi j'ai tenté d'être compositeur.
François Bell, bonjour.
Bonjour.
Dans la précédente émission, nous avons évoqué quelques-uns des fondements de la musique bellienne, si on peut dire, les inventions et les directions que vous avez pu imprimer au sein du GRM, auxquelles vous avez consacré presque 40 ans de votre vie. Je voulais entamer cette dernière émission avec une question plus légère. Je vous ai entendu parfois dire que vous étiez un compositeur d'été. Qu'est-ce que ça veut dire?
À la lettre, c'est cela. Je suis comme un arbre qui ne sort ses fruits que quelques jours par an, et donc qui dort pendant l'hiver, c'est-à-dire qui se protège pour perdurer, et qui se contente du minimum, qui perd ses feuilles et qui épaissit son écorce. Et puis quand les beaux jours reviennent, s'enhardit, a de nouvelles relations avec l'extérieur et produit un fruit, produit quelque chose qui le résume et qui tente de perpétuer la vie jusqu'à la saison suivante, comme ça, d'arche en arche, pas à pas.
Vous avez souvent aussi évoqué votre défiance pour le terme de compositeur, ou plus exactement peut-être pour le compositeur comme profession.
Mais défiance, respect, admiration, mais simplement, malheureusement, constat en ce qui me concerne, que je n'avais pas pris à temps ce chemin-là, que j'aurais tant aimé prendre si j'en avais eu le choix. Mais enfin, en même temps, je ne suis pas mécontent de ce qui m'est arrivé, parce que... Les chaos de mon existence, que j'ai relatés tant bien que mal ici, finalement m'ont construit mon originalité. C'est ce qui me rend ce que je suis. Donc je ne suis pas un compositeur, alors que d'autres peuvent s'enorgueillir de l'être. Mais j'ai tenté de l'être, j'ai tenté de m'en approcher. Et ce qui m'aurait tout de suite rejeté dans la poubelle de l'histoire... Si on avait été en temps normal, il s'est trouvé que j'ai pu m'en sortir parce que j'étais dans un moment très très singulier de l'histoire de l'humanité. Je suis passé au moment d'une fracture, dans une charnière de l'histoire, au moment où toutes les cartes se rebattaient et où on a construit un être humain différent à partir de l'être humain antérieur, qui est un être humain bourré de technologie. Et donc, repliant sans arrêt ses capacités naturelles à des espaces artificiels. Je me suis trouvé à cette charnière-là. La porte s'est ouverte, une espèce de ça s'est ouvert, une fenêtre de tir extrêmement brève par laquelle je suis passé, et qui m'a permis de transformer mon ignorance en aptitude, en légèreté, en capacité de réaction immédiate pour sauter à travers des gouffres de connaissances que je n'avais absolument pas et à deviner ce que je ne savais pas et à passer d'obstacle en obstacle pour comprendre et pour essayer de trouver un chemin suivant cela l'exemple de Schaeffer, qui était de construire un homme apte à être humain dans une civilisation de plus en plus inhumaine. J'ai essayé d'être un homme plutôt qu'un compositeur.
Vous avez beaucoup pensé à la musique, Et il y a des concepts importants, je trouve, dans l'apport qui vient avec la musique acousmatique. Il y en a un qui est double, d'ailleurs, qui est la notion d'espace. Mmh. Et ça se dédouble parce qu'il y a l'espace de déploiement de la musique, dont vous allez pouvoir nous parler, mais aussi l'espace symbolique. Et on avait évoqué l'expérience acoustique hier. Et vous avez développé un travail musical autour d'œuvres qui composent des grands cycles que vous avez aussi appelé des utopies. Quelle est cette articulation autour de la notion d'espace, François Bell, entre ces utopies poétiques et cet espace de déploiement de la musique ?
Eh bien, c'est cette idée que l'organisation de mon temps était que 10 mois sur 12, pour pas dire davantage, et 9 heures sur 24, étaient consacrées à parler, à écouter et à proposer des démarches. Déjà, il faut parler de la constitution du GRM, d'un groupe. Ce serait trop vite dit qu'il s'agissait d'un groupe de compositeurs. C'est pas non, tellement ça non plus. C'était un ensemble hétérogène. C'était des personnes avec des aptitudes très 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 diverses et très pointues. J'ai eu des amis qui étaient tous des gens fantastiquement intelligents, compréhensifs et instruits. Et j'étais le plus nul de tous. J'écoutais leur science, j'écoutais leur formation, j'écoutais leur désir. Et c'est quand même étrange que c'était certainement celui qui était le moins compétent qui était capable de rassembler, justement parce que j'étais un merveilleux auditeur, et de rassembler, de dire on va essayer de faire ça dans cette direction-là. Et comme je ne faisais pas peur, à cause du fait que j'étais si nul, j'étais convaincant. Je n'étais pas devant, je ne tirais pas les gens. C'était eux qui étaient devant. Et moi, je suivais, je dirigeais le troupeau comme un berger. Vous savez, je m'appelle Bail, et Bail veut dire berger. Eh bien, j'ai été un berger, effectivement. Moi, j'ai bien nommé. Et j'ai poussé comme ça, dans ces directions-là. Alors mes œuvres s'inspiraient de ma démarche, J'essayais chaque année de faire quelque chose qui soit convaincant dans mon sens et qui puisse être un espèce d'objet que j'offrais au groupe, comme une espèce de lueur vers lequel on pourrait aller en le faisant beaucoup mieux. Je pense que mes œuvres pouvaient être présentées comme des thèmes pour que les autres s'en inspirent. Les uns pour faire des meilleurs appareils qui iraient dans ce sens, d'autres pour faire des œuvres qui seraient beaucoup mieux faites et beaucoup plus abouties. Et grosso modo, nous fonctionnons. En tout cas, c'est l'utopie dans laquelle, l'image dans laquelle je m'installais. Je ne dis pas que c'était la réalité. C'est le rêve dans lequel je me suis placé et que je trouvais assez réaliste malgré tout.
Et le GRM, c'était aussi une utopie alors à cette époque ?
Bien sûr. Cela a toujours été un groupe, c'est une utopie, parce qu'il n'existe que des individus concurrents, sinon.
Ah.
cet espace imaginaire symbolique dans lequel vous placiez votre création résonne aussi avec un espace physique qui est celui de la musique. Et on avait évoqué hier que vous étiez plus un enfant de la stéréophonie que de la monophonie. On passait de l'objet à un espace sonore, des écrans sonores. Et j'aurais voulu savoir comment vous avez fait ce voyage de la stéréophonie jusqu'à le format que vous adoptez encore aujourd'hui, qui est l'octophonie, donc pour 8 canaux de diffusion. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre écriture musicale ?
Oui, et alors ça, c'est aussi une chance fantastique que dans la durée d'une vie humaine, d'activité d'une vie humaine, c'est-à-dire les 15-20 ans dont on dispose entre 40 et 60 ans, est apparu si rapidement des outils si novateurs, se succédant les uns. Tout ça, c'était très bien. Mais moi, je me suis immédiatement intéressé à ce qui peut s'associer, se dissocier. J'ai beaucoup travaillé avec la bande, mais dès que sont arrivées la possibilité de maîtriser les synchronisations et d'avoir tout d'un coup une page qui permettait de retrouver l'espace polyphonique, la polyphonie m'intéresse beaucoup comme principe, c'est-à-dire pouvoir entendre des choses différentes qui s'influencent et qui créent des tensions, des nœuds et des propulsions, et finalement qui crée de la dynamique d'écoute, c'est-à-dire le fait que l'on court toujours après ce qui va arriver, que l'on devine, mais qui vous trompe et qui s'enfuit devant vous pendant l'écoute. C'est ça mon projet musical, en gros. C'est d'utiliser la capacité de percevoir dans le total sonore un sens qui s'échappe, qui arrive, qui se montre, et dès qu'il se montre, il s'échappe et court devant vous. Bon, c'est cette espèce de phénomène qui vous captive, en fait. Voilà.
Et l'espace, pour cela, c'est un outil à la polyphonie.
Voilà. Et lorsqu'on a pu synchroniser des modulations, les organiser sur des pages, et pouvoir également les matérialiser dans l'espace sur des projecteurs de son, et d'en avoir suffisamment, c'est-à-dire au départ 4, mais 4, c'était assez lisible encore. Mais avec 8, on atteint une certaine illisibilité, un certain nuage de son, une sorte d'évaporation constante, déformation. C'est ce qui m'excite beaucoup, cette espèce de divisionnisme de l'écoute. C'est ce qui me particularise peut-être dans ma production et qui s'entend presque partout. Mais en même temps, ça me permet d'atteindre ce que j'appelle des schèmes. Par exemple, dans Tremblement de terre très doux, qui était une de mes premières pièces prémonitoires dans ce sens, il y a sans arrêt une énumération de schèmes comme ça, des schèmes de flux, de dilatation, d'épanouissement, de balancement, de glissade, etc. Bon, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'avais. Je vais revenir à ça. C'est mon écoute initiale, c'est le premier. C'est tout simplement ma réponse au choc fondamental lorsque j'ai entendu Jeudeau, ou lorsque j'ai entendu Les reflets dans l'eau, ou les 1000 productions de Debussy, et où j'ai entendu ces espaces imaginaires concrétisés, rendus possibles, à la fois d'un total mystère, et un mystère qui pourtant peut se produire, donc qui est à notre portée, tout en restant à l'intérieur du domaine mystérieux. J'ai pensé que on pouvait le tenter aussi avec les myriades de sons, et notamment l'octophonique, qui est pour moi une réduction de cette capacité-là.
France Musique, les grands entretiens de François Bell.
Alors si la notion d'espace, on vient de le voir, est très importante, il y en a une autre aussi qui est sous-jacente dans beaucoup de choses que vous évoquez, c'est celle d'énergie. Et il y a un exemple que je trouve assez manifeste, c'est votre cycle « Sans vitesse lumière », où on voit bien cette conscience de l'énergie qui circule. C'est quoi le « Sans vitesse lumière », François Bell ?
Ah oui, c'est aussi une de mes images un peu bizarre. Ben, c'est l'idée que le son, cette capacité qu'on a, cet organe qu'on a qui nous rend sensible à différentes pressions de l'air, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on transcrit ce phénomène vibratoire dans un autre espace, qui est l'espace électrique, à ce moment-là, on a la possibilité d'un traitement qui se fait à des vitesses bien plus grandes, qui correspondent d'ailleurs aux vitesses de nos influx nerveux. Et ça me permet de faire le lien entre ce que peut être un son et ce que peut être un orage électrique que nous appelons la pensée. Je pense que la pensée n'est rien d'autre que des orages électriques qui se répandent parmi nos neurones, qui s'agglutinent, qui s'envoient des signaux qui se correspondent et qui s'emboîtent dans certaines arithmétiques heureuses et tout d'un coup qui nous permettent des formulations et un rapport de contrôle avec nos impressions perçues par les sens et qui font que nous avons une centration et que nous sommes dans l'espace et en compréhension et que nous pouvons tenir droit en équilibre, voir les choses marcher au devant d'elles ou fuir si elles sont hostiles. Ça, c'est de la pensée. Et pour aller plus loin encore dans ces orages électriques, nerveux, rien de mieux que la musique électroacoustique, perçue acousmatiquement dans des espaces complexes qui seraient multiphoniques. Voilà. Voilà mon histoire.
Donc le son vitesse-lumière, c'est le son porté à la vitesse de la lumière dans les circuits électriques.
C'est une métaphore, bien sûr, mais qui explique mon rêve. Et peut-être que ce rêve peut être partagé par quelques-uns et qui coïncide aussi. D'autres sauraient peut-être mieux l'expliquer, trouver des mots plus appropriés. Je ne tiens pas particulièrement à mon vocabulaire. Mais en tout cas, je suis certain des impressions auxquelles ce vocabulaire se réfère et qu'il contient et que j'essaye de mieux matérialiser par mes productions musicales espacées, annuelles, donc assez distantes les unes des autres pour que la perspective d'enrichissement puisse s'élaborer, pour que j'aie envie d'une nouvelle floraison, d'un nouveau fruit chaque année.
Alors François Bell, on se dirige lentement vers la fin de cette semaine passée ensemble. J'aurais voulu savoir le regard que vous pouvez porter aujourd'hui sur les productions issues de la tradition concrète, issues de cette histoire de la musique acousmatique auquel vous avez tant contribué. Quel est votre diagnostic sur l'état de ces musiques, sur leurs promesses, sur les promesses tenues, les promesses qui ne sont pas tenues ?
Là, vous me feriez jouer un rôle. D'abord, je n'ai pas de goût sur les jugements. J'essaye d'être ouvert. Bien sûr, mes choix musicaux sont bien précis. Je sais ce que j'aime, je sais ce qui m'intéresse et ce qui sort de ma zone d'intérêt. Bon, ce sont mes limites. Mais par contre, je pense que les choses évoluent. Et ce que j'observe avec beaucoup d'intérêt, c'est que nous rentrons dans les micro-événements. L'oreille devient de plus en plus sensible aux événements ténus qui provoquent des sensations très fines. Alors ça m'intéresse évidemment beaucoup parce que ça fait partie aussi de mon rêve et de mes utopies. Voilà, alors j'observe que nous allons dans ce sens-là. Par ailleurs, il faut être aussi sensible à ce que des choses aient des phases d'évolution, d'ouverture, de maximum et de fermeture. Je pense que les gens de ma génération ont imaginé des choses et que l'espace dans lequel ils ont travaillé se referme et qu'ensuite des distances s'installent. Les mouvements imaginent des espaces, l'investigation remplit ces espaces et ces espaces, un jour, on en a fait le tour, l'intérêt se déplace et va trouver d'autres lieux de rêve et d'autres utopies. Voilà, donc je suis très ouvert aux utopies actuelles, bien sûr.
Et si cet univers se referme, il n'a pas l'air de se refermer tant que ça auprès d'une nouvelle génération qui se revendique de votre influence et de celle des grands maîtres, et Pierre Schaeffer. Ma dernière question, François Bell, c'est, je sais que ce n'est pas une question qui va vous plaire, c'est qu'est-ce que vous pensez pouvoir avoir essaimé dans votre travail qui va pouvoir nourrir, peut-être que ce n'est pas à vous de le dire, mais est-ce que vous avez une intuition de ce qui, dans le travail de François Bell, se perpétue déjà dans une génération nouvelle?
Oh, écoutez, je serais très honoré et fier de cela. Je n'en demande pas tant. Je suis très content d'avoir maintenu le GRM si longtemps, déjà de l'avoir extirpé des mains de Schaeffer, qui a eu la générosité de me laisser faire et de me confier un jour cette chose désespérée, sans espoir pour lui, d'une continuité derrière lui. Ça a été magnifique. Et nous avons prolongé cette chose pendant très longtemps. Je n'étais pas seul. C'est grâce à l'effort et à l'ingéniosité, au talent extraordinaire de tous les amis que j'ai eus dans... Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que 20 ans après, 25 ans après, ça continue, que je suis en train de dialoguer avec le responsable du GRM, vous, François Bonnet, qui a succédé déjà à mon successeur, et donc j'assiste d'une façon extraordinaire à cette transmission d'espace de travail, de capacité de convaincre les administrations que c'est bien de faire ça parce que ça correspond à l'époque et qu'il y a beaucoup à en attendre, parce que c'est toute motivation, c'est comme ça qu'on rend service, c'est un service en réalité. Donc cette continuité m'enchante, je vous en remercie infiniment, François Bonnet.
Et merci à vous et merci pour toute cette semaine, François Bell. C'est sur cet extrait de « Où », issu du projet « Weir » de François Bell, une œuvre de 2019, que ces grands entretiens s'achèvent. Prise de son, Stéphane Touvenin. Mixage, Claire Levasseur. Attaché d'émission, Flora Sternadel. Réalisation, Lionel Quentin.
À réécouter sur francemusique.fr.